Bonjour à tout le monde aussi de ma part. Je vous invite à trouver le dernier livre de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, Malachie. Et c'est vrai que nous donnons du temps à étudier un livre qui est très très ancien. Mais je pense que l'ancienneté de ce document est en partie ce qui le rend intéressant. Si cela datait d'hier ou d'avant-hier ou même de 100 ans, ce serait beaucoup moins intéressant. Mais il existe aujourd'hui dans le monde des manuscrits de ce livre qui datent 200 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et on peut les voir, je l'ai vu à deux reprises. Et donc nous étudions, et quand nous regardons des promesses que Dieu a faites à son peuple, et nous voyons que ça prédate même Jésus-Christ, et puis de notre perspective, nous voyons que Dieu a gardé ses promesses, eh bien, cela nous rassure de la bonté, de la fidélité, de la grandeur de notre Dieu. Donc, l'ancienneté du document et puis notre perspective de 2016 et voir l'accomplissement de ce que Dieu a fait entre-temps nous donne de riches bontés à considérer aujourd'hui. Et nous allons voir ce qu'on pourrait appeler la quatrième disputation dans ce livre. Si j'ai bien compris, le mot disputation, c'est comme un débat public sur une question religieuse. Mais j'imagine que vous connaissez tous ce que c'est une dispute. Il y aura certains qui diraient, oui, j'ai entendu parler de ça. Et c'est un argument donc entre deux entités et une de ces personnes dans la dispute, si vous voulez, c'est Dieu. Et l'autre, c'est le peuple d'Israël. Et on retrouve au moins 6 disputes dans ce livre. Et dans chaque dispute, on voit ça commence par une déclaration divine de la part de Dieu. Et puis, tout de suite, une remise en cause de la part de l'homme. C'est ça qui crée la dispute. Et puis une argumentation de la part encore de Dieu, et puis ça termine par une implication ou une conclusion de la part de Dieu aussi. Et par exemple, regardez au chapitre 1, et je crois que c'est un bon exemple parce qu'on a 3 de ces éléments dans un seul verset. Regardez chapitre 1 et verset 2. Vous avez ici une déclaration divine. Dieu dit « Je vous ai aimé ». Mais au lieu de dire « Merci Seigneur, gloire à Dieu, Jésus même, je le sais », il y a cette remise en cause tout de suite. Et vous dites « En quoi nous as-tu aimé ?» Et donc Dieu reprend la parole, il y a cette argumentation et il dit « Cependant, j'ai aimé Jacob ». Vous voyez, il y a donc la déclaration, la remise en cause, et puis l'argumentation de la part de Dieu. Et puis, si vous regardez le verset 5, il y a cette conclusion de tout ce que Dieu dit. Il dit, vos yeux le verront et vous direz, vous serez convaincus. Dieu grand et l'Éternel, par-delà même les frontières d'Israël. Alors, essayez de trouver les mêmes éléments dans cette quatrième dispute, qui commence au chapitre 2 et verset 17. Et presque tous les interprètes bibliques considèrent que Malachie 2, 17 commence ce quatrième oracle ou cette quatrième dispute. Et une raison, c'est que nous retrouvons ces éléments. Il y a une accusation qui arrive, il y a une réaction de la part du peuple, il y a une argumentation de la part de Dieu par la suite. Et une deuxième raison, c'est que le sujet change. Pour ne plus parler du mariage, comme il parlait avant, mais pour parler de la justice de Dieu et du jugement à venir. Donc, au lieu de... Le chapitre aurait dû peut-être commencer au chapitre 17, du chapitre 2, au lieu du verset juste après. Donc, regardez Malachie, chapitre 2 et verset 17. « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites, « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant, « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. » Ou bien, « Où est le Dieu de la justice ?» Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulants. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et alors ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, c'est-à-dire à ce temps-là, après cela, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Et là, il pense à Moïse, à l'époque de Moïse. Verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger. Et ne me craigne pas, dit l'Éternel des armées. Amen, ça c'est la parole du Seigneur. Alors, premièrement, nous avons, on va prendre ça comme premier point, une accusation divine. Une accusation divine. Et cette accusation est très, très intéressante. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On ne trouve pas vraiment cette accusation ailleurs dans la Bible. Il dit, vous, quoi? Vous fatiguez l'Éternel. Une accusation divine, vous fatiguez l'Éternel. Malachie 2, 17, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Alors, réfléchissez un peu à cette phrase. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Je vous cite Ésaïe 40, verset 28, qui dit « Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse, c'est le même mot qu'ici, point. » Alors, la fatigue de Dieu dont parle Malachie ne suggère pas que Dieu est au bout de ses forces, que Dieu n'a plus d'énergie. Dieu n'est jamais épuisé. Cela parle, et je crois que c'est évident par la suite, plutôt du fait que la patience de Dieu touche à sa fin. La patience de Dieu touche à sa fin. Cela me rappelle les paroles d'Ésaïe au roi Akaz. Ésaïe a dit au roi, « Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?» Ésaïe 7, verset 13. Vous savez, la patience de Dieu ne dure pas à toujours. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on voit la patience de Dieu durer parfois 60 ans, 70 ans, pour quelques-uns 80 ans, même, et c'est les exceptions, 90 ans. Mais trouvez-moi une personne qui a 120 ans. Trouvez-moi une personne qui a 180 ans. La Bible dit que nous sommes, la mort, c'est parce que nous sommes consumés par sa colère. La mort, pour chaque individu, demeure encore le salaire de notre péché. Donc la patience de Dieu ne dure pas à toujours. Il se fatigue toujours contre les pécheurs. La patience de Dieu ne dure pas pour toujours. Il ne faut pas jouer avec la patience de Dieu. Dieu ne nous a même pas promis un lendemain, le lundi. Il ne nous l'a pas promis. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et le troisième commandement, vous savez ce que c'est le troisième commandement ? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de prendre le nom de l'Éternel en vain. Ce troisième commandement ne parle pas simplement de gros mots, comme on dit. Et je crois qu'ici, il fait référence au troisième commandement. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Vous prenez dans vos paroles le nom de l'Éternel en vain. Et en réponse à leur question, vous voyez, en quoi l'avons-nous fatigué ? Malachie ne dit pas, ben, vous dites plein de gros mots. Il y a trop de grossièreté, trop de jurons. Le problème, en fait, c'était ce qu'ils disaient de l'Éternel, même pas à l'Éternel dans leur prière, mais ce qu'ils disaient de l'Éternel par rapport à leurs circonstances. Ils parlent de leurs circonstances les uns aux autres et ça reflète sur Dieu. Et donc, il utilise ces phrases qui résument un peu la mentalité du peuple de son jour. On va en parler tout à l'heure, mais il faut savoir qu'on n'a même pas besoin d'utiliser le nom de Dieu pour refléter sur le caractère de Dieu. C'est pour ça, donc, si vous suivez l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, un des plus grands péchés était qu'il murmurait. Il murmurait. Et Dieu disait, quand vous murmurez, c'est contre moi que vous murmurez. Non, j'ai rien dit de l'Éternel. J'ai pas dit que c'était sa faute. Et c'est un peu comme le jeune qui dit, vous savez, je vais pas vous dire de non, hein, pour protéger l'innocent, mais chez moi, on mange jamais bien, c'est toujours terrible, et je trouve personne à qui parler, mais je dis pas qui c'est, hein. Mais ça reflète tout de suite sur la famille, sur les parents. Quand nous parlons en tant qu'enfants de Dieu, même si on ne dit pas « bon, c'est la faute de Dieu », ça reflète sur notre Père céleste qui a promis que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Nous pouvons, sans le savoir, fatiguer notre Père céleste par nos paroles. Alors, ça c'est donc l'accusation. Regardez deuxièmement la remise en cause. Il dit là au verset 17, chapitre 2, « Vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ?» Et ça encore, c'est la mentalité moderne. Rien n'a changé. Tout de suite, il y a cette argumentation. Ils ne prennent même pas le temps pour réfléchir. « Ah oui, comment ça ?» Non, non, tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait ? Montre-moi, prouve-moi. Et on aperçoit que l'homme ne juge pas selon la moralité de Dieu, l'homme juge Dieu selon la moralité de l'homme. Et cela revient au moins 7 fois dans ce petit livre. Bon, on a déjà lu chapitre 1, verset 2, mais Malachie 1, verset 6, il dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître, suis-je un père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Et vous dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Verset 7, Malachie 1, « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. » Et vous dites, « Mais en quoi t'avons-nous profané ?» Regardez chapitre 2, verset 13, « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Et vous dites, « Pourquoi ?» Là, maintenant, verset 17, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites, « En quoi l'avons-nous fatigué ? » On le retrouve encore au chapitre 3, verset 7 et verset 8. C'est cet esprit de contestation, tout de suite, qui n'accepte pas soit les accusations que porte l'Éternel contre eux, soit les affirmations que fait l'Éternel de lui-même. Par exemple, quand il a dit « Je vous aime ». Tout est remis en cause. vous savez, on peut développer cette réaction spirituelle où tout de suite, sans préméditation, on remet tout en cause. C'est comme une habitude. On est toujours prêt à tout questionner. Et il faut s'examiner soi-même pour voir si c'est, en fait, nous aussi. Mais regardez, troisièmement, donc, l'argumentation de Dieu. Dieu, dans sa grâce, est prêt à répondre à leur insulte, à leur questionnement. Ça me rappelle Ésaïe 1, 18. « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. » C'est la grâce de Dieu qui veut les convaincre de leurs péchés, tout comme il veut nous convaincre, vous convaincre aujourd'hui de vos péchés et me convaincre de mes péchés. Et Malachie, ici, c'est deux phrases qui résument la mentalité du peuple à cette époque. Regardez verset 17 encore. « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi n'avons-nous fatigué ?» Et c'est en disant, et voici, il donne donc deux autres phrases qu'on pouvait entendre à l'époque. Voici la première des deux. Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. C'est-à-dire, Dieu prend plaisir en celui qui fait le mal. Ça, c'est une accusation très, très forte à l'égard de l'Éternel. Dieu, tu prends plaisir dans ceux qui font le mal. Alors, en réfléchissant à cela, je ne pense pas que les gens pensaient réellement que Dieu prenait du plaisir dans le mal. Je crois que c'est une expression sarcastique, ou une expression de frustration, ou même de résignation. Je crois que l'idée dans la mentalité du peuple était un peu ceci. Le niveau de péché, de crime, de corruption est tel qu'on dirait que Dieu l'encourage. On dirait que Dieu bénit ceux qui font le mal. Dieu bénit les tricheurs, les menteurs. Et moi, quand j'essaye de plaire à Dieu, je souffre. Regardez autour de vous. Dieu approuve ceux qui font le mal. Imaginez que dans votre boîte, quelqu'un d'autre, un collègue, a eu une promotion parce qu'il a menti. Et vous, vous souffrez parce que vous avez dit la vérité. Cela arrive. Il y avait un grand vaisseau pirate. J'ai entendu, ça fait longtemps cette histoire, mais français. Et ils avaient écrit sur le devant du bateau « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes ». C'était la devise de ces pirates. « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes ». Et c'est une expression même. Et voici la devise encore de beaucoup de nos jours. Il semblait que c'était réellement le cas. « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qui prend plaisir. » On dirait que pour réussir dans la vie, il faut tricher, il faut mentir, il faut être égoïste. Et Dieu bénit de tels gens. J'ai entendu à la radio une interview avec quelqu'un qui est devenu très connu dans les médias. Et il a maintenant fait toute sa carrière. Et il a admis qu'au début de sa carrière, il a dû, je mets ça entre guillemets, il a dû mentir. Parce que pour aller à la télé, il fallait dire qu'il avait l'expérience alors qu'il l'avait pas. Mais bon, parfois, c'est ce qu'il faut faire pour commencer. Et donc, j'ai dû mentir, vous voyez. Ça, c'est la mentalité. Parfois, il faut mentir pour réussir. Alors, avons-nous pensé comme cela cette semaine? Qu'il semble que ceux qui trichent et qui mentent, qui sont orgueilleux, réussissent, que Dieu les bénisse alors que nous, nous souffrons. Et la deuxième citation n'est pas ironique, c'est plutôt direct. Regardez Malachie 2, 17. Ou bien, il dit, voici quelque chose d'autre que vous disiez. Où est le Dieu de la justice? Où est le Dieu de la justice? Alors c'est sur cette phrase que les versets suivants vont vraiment se concentrer. Il y a deux questions là-dessus. Où, c'est-à-dire où est-il? Et voyez le dernier mot du verset, ça nous donne le thème de leur contestation ici. La justice de Dieu. Ils mettent en cause la justice de Dieu et disent « Où est ce Dieu de la justice ?» C'est-à-dire, où est l'intervention de Dieu dans tout cela ? Où peut-on voir la main de Dieu dans tout cela ? Dieu est-il même présent dans tout cela ? Où est le Dieu de la justice ? Peut-être il ne s'intéresse pas, peut-être c'est pour ça. Mais pourquoi ne veut-il pas intervenir dans notre situation? Alors je vais vous citer la prière du gouverneur Néhémie, qui se trouve en Néhémie chapitre 9, verset 33. Et écoutez-le et notez le contraste avec ce qu'ils disent ici. Voici ce que dit vraiment un croyant par rapport à leur souffrance. Il prie à Dieu, il dit, Néhémie 9, 33, « Tu, Dieu, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en toute fidélité alors que nous avons fait le mal. » Ah, c'est deux prières différentes, n'est-ce pas? Il y en a un qui dit, « Mais où est le Dieu de la justice ?» Et Néhémie, à la même époque, il prie, « Seigneur, toi, tu es fidèle, c'est nos péchés. » Plus tard, dans le même chapitre, Néhémie 9, 37, il dit, « Les moissons abondantes que le pays produit profitent au roi que tu nous as imposé à cause de nos fautes. » C'était un peu ça la souffrance, c'est que bon, les impôts étaient très très lourds et ça partait donc à des rois étrangers. Et donc certains disaient, « Mais où est Dieu ?» Et Néhémie disait, « Non, c'est toi qui le fais à cause de nos fautes. » Vous voyez les deux perspectives différentes face à la même situation. Et certainement, ces deux perspectives existent même dans cette salle, face à nos souffrances de la semaine. Et donc, contrairement à Néhémie, les gens à qui Malachi parlait étaient persuadés que le problème était avec qui ? Que le problème était avec qui ? Avec Dieu ! N'est-ce pas? Où est-il? Qu'il était soit injuste, soit négligent, en refusant d'intervenir. Et donc, dans les deux cas, Dieu s'avère infidèle à ses promesses. Soit il est injuste, ça c'est la première phrase, soit il nous ignore, ça c'est la deuxième phrase, mais dans les deux cas, Dieu est infidèle. On ne peut pas compter sur lui. Où est le Dieu de justice? Est-ce que vous avez posé une question telle que celle-ci cette semaine? Cette question peut se poser dans deux sens. Et on ne nous dit pas dans quel sens on le disait, et j'imagine qu'on le prenait dans, on le disait dans les deux sens dont je vais en parler, parce que dans ce qui suit, on voit que Dieu va faire quand il arrive deux choses. Il va purifier certains, il va juger d'autres. Parce qu'on peut dire où est le Dieu de justice par ceux qui font le mal. C'est-à-dire, ils font le mal, ce sont des pirates, si vous voulez, ils disent, mais on n'a rien à craindre. Dieu ne va pas intervenir. 2 Pierre 3, 4, il y a des gens qui disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Nous n'avons rien à craindre. Où est le Dieu de la justice? Il ne viendra pas. Et ça peut être dit aussi par ceux qui souffrent du mal. Hein, donc il y a ceux qui font le mal, ils disent, mais oh, Dieu ne viendra pas. Et puis, par ceux qui souffrent le mal, nous voyons ça en Apocalypse 6, 9 et 10, on voit ça beaucoup dans les psaumes où le psalmiste dit, « Seigneur, mais quand viendras-tu à mon secours ?» Donc il y a un qui dit, « Je ne crains pas le Dieu de la justice. » Et l'autre dit, « Je n'ai pas confiance dans le Dieu de la justice. » Mais dans les deux cas, la justice de Dieu et l'intervention de Dieu est centrale à leur murmure contre Dieu. Et tout cela donc sert d'introduction à un très très beau passage de l'Ancien Testament sur la justice de Dieu et l'intervention de Dieu. Partez avec ces deux idées, j'espère, dans vos têtes, la justice de Dieu et l'intervention de Dieu. Et là, nous arrivons donc à quatrièmement, la résolution. Hein, il y avait l'accusation qui fatiguait le Seigneur, et puis cette remise en cause, mais comment? Et puis cette argumentation, ben, je vais vous dire comment, parce que vous dites ceci, vous dites cela, par rapport à la justice et l'intervention de Dieu. Mais voilà la résolution, et ça c'est la résolution. En deux mots, Dieu interviendra. Dieu interviendra. Et nous voyons qu'il le fera par deux envois. Premièrement, par l'envoi d'un messager préparateur. Alors, regardez le Malachie chapitre 3, verset 1. Donc, il vient de dire, où est le Dieu de la justice? Et Dieu répond, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, vous avez dit, mais où est-il? Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Alors notez bien, vous pouvez même, si vous voulez, les souligner ou marquer avec un 1 et un 2 peut-être, les deux messagers dans ce verset. Est-ce que vous avez noté cela? Il y a au verset 1, il y a ce qu'il appelle mon messager. Vous voyez cela? Et puis plus tard, il y a quoi? Il y a le messager de l'Alliance. En fait, il y a deux personnes distinctes ici dans ce verset qui sont promises. Mon messager et le messager de l'Alliance. En regardant dans le passage, vous constatez que ce n'est pas la même personne. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. C'est un messager préparateur. Alors, je vous demande de lire Ésaïe chapitre 40 et versets 1 à 3 avec moi. Quand il dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Ce messager préparateur est trouvé aussi en Ésaïe chapitre 40 et les premiers trois versets, surtout le verset 3, mais je commence au premier verset. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel un double de tous ses péchés. Verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc Malachie dit, j'enverrai mon message, il préparera le chemin devant moi. Et si on se dit, mais comment est-ce qu'il va préparer le chemin? Est-ce qu'il viendra avec beaucoup de force? Est-ce qu'il viendra avec beaucoup de miracles? Est-ce qu'il viendra avec beaucoup de, comment est-ce qu'il viendra? Comment est-ce qu'il préparera le chemin devant l'Éternel? Ésaïe nous donne la réponse, c'est une quoi? Une voix qui va crier. La préparation se fera par la voix, la prédication, si vous voulez, de quelqu'un qui crie. Alors, je vous demande maintenant de trouver Marc, l'évangile de Marc et le premier chapitre. L'évangile de Marc, chapitre 1, verset 1. Il nous dit tout de suite le sujet de son évangile, commencement de l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus le Christ, Jésus le Messie, Fils de Dieu. Verset 2, selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète, et puis il dit ceci, vous y êtes, Marc 1, 2, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Ça, c'est une citation de qui? En fait, de Malachie. Ce n'est pas une citation d'Ésaïe, Mais Malachie chapitre 3, verset 1, c'est bien de le noter, et c'est juste après, au verset 3, que Marc va maintenant citer Ésaïe. Verset 3, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous voyez comment Marc, il va prendre ces deux citations, il va les mettre ensemble, pour ne faire qu'une seule prophétie de ces deux. Marc dit, je vais citer Ésaïe, ce qu'il fait d'ailleurs, mais juste avant, il ajoute donc cette citation de Malachie pour expliquer la citation d'Ésaïe, qui va expliquer la réalité à l'époque de Marc. Alors si vous demandez de qui parle-t-il, qui est celui qui prépare le chemin avec sa voix qui crie, ben la réponse se trouve dans le premier mot de Marc, chapitre 1, verset 4, et c'est qui? C'est Jean. C'est ce qu'on appelle souvent Jean le Baptiste. Alors je vous invite à trouver aussi maintenant Luc, chapitre 1. Je trouve que c'est très beau. On l'a lu en Luc 1 ce matin, mais on n'est pas allé assez loin. Donc regardez le verset 67. Écoutez le mot du père de Jean. Le père de Jean s'appelle Zacharie. Et on a appris ce matin comment l'ange Gabriel lui est apparu. Mais on l'a laissé muet. Mais dans ces versets, il n'est plus muet. Dieu l'a guéri et il parle. Et verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Lui, maintenant, sert de prophète. Lui va prophétiser. Et sauter, trouver le verset 76, Luc 1, 76. C'est comme s'il regarde vers son bébé. Il a peut-être même dans ses bras. Et il lui parle. Et il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Vous voyez la référence à Malachie, chapitre 3 ? Lié donc à ce petit bébé dans les bras de son père. Et ce qui est frappant est que nous trouvons ici avant la naissance de Jésus. Donc ne pensez pas que l'identification de Jean-Baptiste comme le prophète promis par Malachie et Ésaïe soit venue après l'identification de Jésus comme Messie. Ça ne s'est pas fait après que Jésus fut identifié. C'est-à-dire, on n'a pas dit, bon, nous savons que Jésus est le Messie, donc cela veut dire que Jean a dû être le prophète. Ce n'est pas passé comme ça dans l'histoire. L'identification de Jean comme prophète préparateur vient avant l'identification de Jésus comme le Messie. Et bien, c'est logique parce que c'est Jean même qui va servir, donc, qui va identifier Jésus comme le Messie. Ça sera son rôle spécial. Et notez bien qu'au verset 67, il dit que Zacharie était rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. C'est donc une prophétie. Malachie est rempli du Saint-Esprit et prophétise en disant « un messager va venir préparer ». Ésaïe, rempli du Saint-Esprit, il a dit « il va préparer avec sa voix ». Et Zacharie est rempli du Saint-Esprit et il prophétise à sujet de son bébé et il dit « c'est toi qui seras ce prophète ». C'est toi. N'est-ce pas merveilleux de voir comment ces prophéties s'accordent? Et là, le prophète préparateur, le messager préparateur est maintenant identifié publiquement. Et vous dites, mais est-ce que cela va changer la semaine à venir? Et moi je dis oui, mille fois oui même. Pourquoi? Vous dites pourquoi, hein? Ben, que disait le peuple? Où est le Dieu de la justice? Et Dieu répond, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et voici la bonne nouvelle, Dieu a fait exactement ce qu'il a promis. Dieu a gardé ses promesses. Dieu garde toujours ses promesses. Et nous pouvons nous arrêter sur la vie de Jean Et avec la vie de Jean, nous pouvons être convaincus de la fidélité de Dieu. Ce qu'il a promis, il a accompli. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, écoutez les paroles de Jésus en Matthieu. Matthieu chapitre 11, on a lu en Marc, on a lu en Jean, on a lu en Luc. Et maintenant en Matthieu chapitre 11, verset 7, Jésus se mit à dire de la foule au sujet de Jean. Donc maintenant c'est Jésus lui-même qui grandit, va parler de Jean. Zacharie a parlé de Jean en tant que bébé. Jésus maintenant parle de Jean et il dit, « Qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau agité par le vent ?» Verset 8, « Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ?» Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. « Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. » Et voici la citation encore de Malachie qui sort de la bouche de Jésus. « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Alors pour revenir donc maintenant à Malachie, c'est pas très loin, c'est à la fin de l'Ancien Testament. Le peuple dit « Où est le Dieu de la justice ?» Et Dieu répond « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » La résolution, c'est que Dieu interviendra. Premièrement, par l'envoi d'un messager préparateur. Et nous pouvons ajouter le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. C'est comme cela que Dieu va intervenir. Mais cela devient encore mieux. Alors, est-il possible d'avoir mieux que le plus grand des prophètes ? Oui, regardez-le. Regardez Malachie chapitre 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Ça, c'est Jean-Baptiste. Hein, nous l'avons vu, nous l'avons prouvé depuis les Écritures. Et puis, il dit ceci. « Et soudain, entrera dans son temple. » Attention, regardez bien cela. « Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Et nous voyons que la résolution ici, c'est que Dieu interviendra premièrement par l'envoi d'un messager préparateur, c'est le plus grand des prophètes, c'est Jean-Baptiste, mais deuxièmement, par l'arrivée du messager de l'alliance. Le messager de l'alliance. « Voici le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Il vient. » Et notez bien ce qu'il est dit de ce messager de l'alliance. On voit que ce n'est pas n'importe qui. « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulants. Il, c'est-à-dire ce messager de l'alliance, verset 3, il s'assiera. » Il fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront alors à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est époustouflant. Ce messager de l'Alliance est un feu qui purifie, qui épure et qui transforme. C'est pas n'importe qui. Il fait des choses que Dieu seul peut faire. Il a des attributs, même dans ce texte, qui ne sont attribués qu'à Dieu lui-même. Et la seule conclusion, c'est qu'il soit divin. Qu'il soit divin. Le messager est identifié à celui qui envoie le message. Vous voyez ça, c'est un... Il envoie et il est envoyé. Il est presque la même personne ici. C'est un passage messianique. Il parle du Messie, mais c'est aussi un passage trinitaire, car celui qui envoie est identifié à celui qui est envoyé. Il dit, j'envoie mon messager, et puis j'envoie le messager. Le messager préparateur est mon messager, mais après j'envoie le messager de l'Alliance. C'était déjà clairement révélé à l'époque de Malachie que dans l'âge à venir, et je parle de la perspective de l'Ancien Testament ici, il y aurait une nouvelle alliance. Ésaïe en avait parlé, Ésaïe 55 et 61, Ézéchiel en avait parlé, Jérémie en avait parlé, je vous cite même Jérémie, il dit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une nouvelle alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, alliance qu'ils ont violée, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, il y a une nouvelle alliance. Donc, quand il parle après, donc Malachie vient après Jérémie, quand il parle de ce messager de l'alliance, ça peut être naturellement considéré comme le messager de la nouvelle alliance promise par Dieu. Promise par Jérémie. Voici le messager de la nouvelle alliance. Regardez-le encore, Malachie 3:1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Alors regardez bien ces pronoms. C'est qui parle ici? À la fin du verset, il dit l'Éternel des armées. Donc, il dit c'est mon message, c'est mon messager. Et il préparera le chemin devant qui? Devant moi. Alors c'est quelque chose qu'on avait vu avec Michaël, mais revenons à Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Et gardez cela bien en tête. Malachie, Dieu parle, il dit « J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi ». Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, donc le sujet est bien établi, on parle de Jésus-Christ. Puis vient, comme on a vu, cette double citation de Malachie et d'Ésaïe. Mais notez le petit changement dans la citation de Malachie. Verset 2, selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi, mon messager, qui préparera ton chemin. » Le « toi » et le « ton » fait sans doute référence à qui? Verset 1, il a dit, le sujet de mon livre, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et en parlant à Jésus-Christ, il dit, c'est ton messager et il prépare le chemin devant toi. Mais l'Éternel des armées a dit, c'est mon messager et il prépare mon chemin. L'Éternel des armées. Jean-Baptiste est donc le messager de qui, selon Malachie? Le messager de l'Éternel des armées. Et Jean-Baptiste a pour mission de préparer le chemin devant qui? Devant l'Éternel des armées. Et Marc reprend la même phrase, mais il l'applique à Jésus en disant que Jean est envoyé devant toi pour préparer ton chemin. Jean-Baptiste est donc, écoutez bien, il est le messager de l'Éternel des armées, le messager de Jésus. Jean-Baptiste a pour mission de préparer le chemin devant l'Éternel des armées, devant Jésus le Christ. L'Éternel des armées, il dit en Malachie, « Tu es mon messager pour préparer le chemin devant moi. » Et Marc cite le Saint-Esprit comme disant, « Jean est ton messager pour préparer le chemin devant moi. » Toi, il y a donc une équation ici entre l'Éternel des armées et qui? Et Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, comme dit Marc 1, verset 1. Nous voyons le même message ailleurs. Je vais vous lire Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus veut dire Yahweh. Sauve, Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Plus tard, dans le même chapitre, il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, en l'occurrence Ésaïe, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le messager de l'Éternel des armées, le Dieu qui sauve, Dieu avec nous, tout ça, c'est Jésus-Christ. La résolution, donc, c'est que Dieu interviendra. premièrement par l'envoi d'un messager préparateur, le plus grand des prophètes, mais deuxièmement par l'arrivée du messager, en majuscule, messager de l'Alliance. Et vous dites, est-ce que cela va changer la semaine à venir? Et je dis oui, mille fois oui. Pourquoi? Ben, que disait le peuple? Où est le Dieu de la justice? Et Dieu répond comme cela, soudain. Entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, et tout le Nouveau Testament est devant vous en criant, il est venu! Il est venu! Celui qui a été promis est venu, il a tabernaclé, il a habité parmi nous, il a pris chair, il a vécu comme un de nous. Et il a fait plus que cela, il a pris nos péchés dans son corps et il est allé jusqu'à la croix, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité le troisième jour et maintenant il a pris, si vous voulez, sa place, il s'est assis à la droite de Dieu et il règne dans les cieux. Celui qui a été promis, il est venu. Alors pour terminer, je vous invite à trouver Jean. Je dis, on n'a pas encore lu Jean, on avait lu maintenant Matthieu, de Marc, de Luc, mais on va terminer avec Jean. Jean chapitre 1. Et ça sera la fin, je promets. Il dit, verset 6, Jean 1, 6, il y eut un homme envoyé de Dieu. Alors là encore, une autre allusion à quoi? À Malachie chapitre 3, verset 1, où je vais envoyer mon messager. Ben voici l'homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ça, c'est son rôle. Rendre témoignage à la lumière. Avec sa voix, crier. Alors, quel était son témoignage? Je vous invite à sauter jusqu'au verset 29. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus. On parle de Jean ici, cet homme envoyé de Dieu, dont parle Malachie. Il vit Jésus venant à lui et il dit, et j'imagine qu'il a dû le crier, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé. » Il vient après moi, parce qu'il est né après moi, mais il m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu. Là, on voit encore une allusion. Je suis là pour qu'il soit manifesté. Que je suis venu baptiser d'eau. 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, sur Jésus. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, encore cette allusion, baptisé d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu !» J'imagine que chaque fois qu'ils se croisaient, Jean disait « Voilà l'agneau de Dieu !»« Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde !» C'est mon rôle, je suis là pour ça. C'est pour qu'il soit manifesté, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. C'était la vie, le ministère de Jean. Alors je vous demande, acceptez-vous le témoignage de Jean? Croyez-vous que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Êtes-vous convaincu qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'Éternel des armées, qu'il est Dieu en chair? 400 ans auparavant, Malachie avait prédit la venue de Jean-Baptiste et la venue du Dieu incarné, et Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ.
Prions.
Seigneur, merci pour ces très belles promesses et du fait que nous, de notre perspective, nous voyons l'accomplissement de ces promesses. Et nous te remercions que le jour de jugement, où ce même messager de l'Alliance jugera le monde, n'est pas encore arrivé. C'est encore le jour de grâce. Et nous prions que tu aies pitié sur ceux et sur celles qui, aujourd'hui dans cette salle même, résistent encore au messager de l'Alliance, résiste encore au Seigneur qui est venu en chair. Par ton esprit, convainque-leur de leur péché, qu'ils soient sauvés, que tu sois glorifié, que nous soyons bénis et nourris par ta parole, et que tu nous rappelles de ces choses tout le durant de la semaine. Car c'est en nom de ce messager de l'Alliance que nous prions. Amen.